Merci d'écouter RFI 11h, temps universel. Il est midi à Paris.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité avec à la une de ce mardi 6 décembre 2016. Bernard Cazeneuve, nouveau Premier ministre français. Celui qui, depuis 2 ans, occupait le portefeuille de l'intérieur, remplace Manuel Valls, qui s'est déclaré hier candidat à la présidence de la République. Manuel Valls, candidat à la primaire et ce matin démissionnaire. Bernard Cazeneuve à la tête d'un gouvernement qui devrait rester en place jusqu'à la prochaine présidentielle avec très peu de changements. Nous allons évoquer cette actualité politique française avec nos invités en studio. Dans 10 minutes, Gérard Filoche, candidat socialiste à cette primaire de la gauche. Le politologue Olivier Roucan sera aussi avec nous pour réagir à ce troisième gouvernement de la présidence Hollande, comme à ses contours de la primaire de la gauche qui se dessine de plus en plus nettement. On va donc y revenir jusqu'à 12h30. Autre titre à la une de l'actualité, veto russe et chinois, la résolution du Conseil de sécurité sur une trêve à Alep. Il y a un risque de partition de la Syrie qui se profile, estimait ce matin sur notre antenne Jean-Marc Ayrault. Vous pourrez réentendre l'entretien que le chef de la diplomatie française a accordé à RFI vers 12h35. Et puis le procès d'un membre d'une organisation aux pratiques barbares, le groupe ougandais de l'armée de résistance du Seigneur, l'ex-chef de guerre, comparaît à compter d'aujourd'hui devant à la CPI. Tout de suite, c'est le journal. Les certitudes sont rares en politique et pourtant, avec Bernard Cazeneuve nommé à 5 mois seulement de l'élection présidentielle, une chose est sûre, il sera le Premier ministre à rester pour la plus courte période à l'hôtel Matignon. Bernard Cazeneuve, nommé ce matin, juste après le passage express de son prédécesseur Manuel Valls à l'Élysée, reçu une trentaine de minutes par François Hollande et en milieu de matinée, il était environ 10h30, la liste donc des ministres qui a été égrené, il faut dire qu'il y en a peu, choix très resserré à Anissa El Jabri et des hommes de confiance.
Oui, Bernard Cazeneuve à Matignon, c'est le choix aussi de la fidélité au président. Le budget après le scandale Cahuzac, l'intérieur après le très populaire Valls, l'ex-maire de Cherbourg est devenu en quelque sorte le couteau suisse du gouvernement, l'homme des missions difficiles, dit-on poliment à l'Élysée. L'ex-porte-parole du candidat Hollande, à l'image austère, est en réalité un pince sans rire au talent certain d'imitateur. C'est surtout quelqu'un de respecté au gouvernement et par toutes les composantes de la majorité. C'est rare. Pas candidat aux législatives, Bernard Cazeneuve est donc dédié à sa tâche pour les tout derniers mois. Prime à la fidélité aussi pour Bruno Le Roux, compagnon de route du président. Le tout nouveau ministre de l'Intérieur n'en pouvait plus de diriger les députés socialistes et il l'avait fait savoir. Hollandais de longue date aussi, André Vallini récupère le très stratégique poste des relations avec le Parlement quand, petit tacle au valsiste, le très clivant et ami du désormais candidat à la primaire Manuel Valls, Jean-Marie Le Guen passe au développement et à la francophonie. Bref, surtout un poste où il sera éloigné des jeux de pouvoir parisiens.
Alors Anissa, on l'a compris, c'est un remaniement à minima.
Bien oui, on avait décrit ces derniers jours à François Hollande tenter avec ce dernier mouvement de régler ses comptes avec tous ceux qui l'ont affaibli. Finalement, pas de purge. Les radicaux qui ont pourtant décidé de présenter un candidat à la présidentielle, ils sont toujours en place. Des ministres étiquetés pro-Valls comme Jean-Jacques Urvoas à la justice, l'ex-aubriste Laurence Rossignol garde leur portefeuille et puis Stéphane Le Foll, qu'on sait, sur les sentiers de la guerre contre la candidature Valls, Stéphane Le Foll n'est donc pas promu à Matignon. Pas de message particulièrement politique pour la primaire donc. François Hollande ne donnera pas de bons et de mauvais points dans cette compétition, prévenait une proche ce week-end. Sur le fond, en tout cas, il faut le dire quand même, l'enjeu est limité. Les textes de loi importants sont votés et la session parlementaire est suspendue en février pour cause de campagne. Cette toute nouvelle équipe va essentiellement expédier les affaires courantes.
Anissa El Jabri, Bernard Cazeneuve à Matignon, un Premier ministre donc plutôt consensuel, comme le souligne d'ailleurs à droite le député Les Républicains, Thierry Solaire.
C'est un de ses proches qui aujourd'hui est nommé Premier ministre pour les 4 mois et demi qui restent d'ici la fin du quinquennat. C'est quelqu'un qui est digne, Bernard Cazeneuve, et donc quelqu'un qui sera à sa place dans les 4 mois et demi qui restent, en sachant que on note quand même un rétrécissement, bien sûr, dans ce contexte si particulier où le président de la République a renoncé à défendre lui-même son propre bilan devant les Français. Je souhaite donc que l'appareil d'État continue à fonctionner et avec Bernard Cazeneuve, Premier ministre, je n'ai pas de doute qu'il y aura de la dignité dans la période à venir sur cette fonction qui est la sienne aujourd'hui.
Thierry Soler, joint par Julien Chavanne, actualité politique française. On y revient donc dès 12h10. Actualité politique très dense en Europe, avec finalement Matteo Renzi qui repousse sa démission jusqu'à ce que soit adopté le prochain budget de l'Italie. Il reste encore donc pour quelques jours supplémentaires à son poste, à la demande du président Mattarella. Les images de désolation, de détresse, les appels à l'aide n'y changent rien. C'est à nouveau l'impasse sur la Syrie au Conseil de sécurité de l'ONU. Hier, la Russie et la Chine ont opposé leur veto à un projet de résolution qui demandait une trêve humanitaire à Alep. Ce matin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, estime que les États-Unis refusent de parler sérieusement de cette situation dans la ville d'Alep, ville où les rebelles perdent du terrain face à l'armée du régime. Invité de RFI, hein. Ce matin, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a mis en garde contre Nicolas Falaise une partition de la Syrie.
Nous sommes déjà dans l'après Alep, nous confie récemment un diplomate français. Les Occidentaux ne se font plus d'illusions sur la capacité des rebelles à tenir leur dernier réduit face à la pression de l'armée gouvernementale appuyée par ses alliés. Des rebelles d'Alep qui répètent chaque jour ou presque qu'ils ne quitteront pas leur position. Ils rejettent les différentes propositions qui ont été formulées pour l'évacuation de tout ou partie des groupes de l'opposition armée. Alep agonise, mais sa chute ne signifierait pas la fin du conflit syrien. Ces derniers jours, des bombardements ont fait des dizaines de morts à Idlib, une province tenue par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie. Idlib qui pourrait devenir l'un des prochains objectifs du régime de Bachar el-Assad et de ses soutiens. Et puis, il y a Raqqa, capitale autoproclamée du groupe État islamique dans l'est de la Syrie. Ce matin sur RFI, le chef de la diplomatie française a mis en garde contre une partition de la Syrie, entre une zone contrôlée par le pouvoir de Bachar el-Assad, la Syrie utile, et une autre zone qui resterait aux mains du groupe État islamique, un Dachestan, selon Jean-Marc Ayrault. D'après lui, la menace de radicalisation et la menace terroriste demeuraient alors dans la région.
Nicolas Falaise et cette réaction à l'instant de la chancelière allemande, Angela Merkel, pour qui la situation à Alep est une honte pour la communauté internationale. Une fuite massive de la Birmanie vers le Bangladesh, c'est l'Organisation internationale pour les migrations qui alerte aujourd'hui sur le sort des Rohingyas, cette minorité musulmane dont plus de 20 000 représentants ont passé la frontière au cours des deux derniers mois. Un exode pour fuir des soldats birmans accusés de massacres, de viols. Le Bangladesh qui abrite aujourd'hui près de 230 000 de ces réfugiés arrivés sur son sol ces dernières décennies. Ce procès qui pourrait révéler au plus grand nombre les exactions commises depuis des dizaines d'années par l'armée de résistance du Seigneur. Ce groupe fanatique ougandais dont l'une des figures, Dominique Ongwen, comparaît à compter d'aujourd'hui devant la Cour pénale internationale. En direct de là, on retrouve notre envoyée spéciale Léa Lisa Westerhoff. Dominique Ongwen, Léa Lisa, était l'un des 5 commandants de cette rébellion sanguinaire. Ce matin, eh bien, il a plaidé non coupable.
Oui, Caroline, c'est bien en victime que Dominique Ongwen s'est présenté ce matin devant les juges. Costume beige, cravate bleue, visage fermé, regard concentré. Lorsque le juge lui demande s'il a bien compris les accusations portées contre lui, Dominique Ongwen répond oui, mais non au fait qu'il en soit tenu responsable. C'est la LRA qui a enlevé des gens dans le nord de l'Ouganda, dit-il. La LRA qui a commis les crimes. J'ai été l'une de leurs victimes, mais ce n'est pas Dominique Ongwen qui a commis les crimes de la LRA, insiste-t-il. Le juge poursuit, est-ce à dire que vous plaidez non coupable ? Oui, répond Dominique Ongwen, avant que la séance ne soit levée. Persécution, pillage, torture, grossesse forcée, viol, enlèvement d'enfants, un traitement inhumain. Voici quelques-uns des 70 chefs d'inculpation que la Cour a retenus contre Dominique Ongwen, élus pendant près d'une demi-heure ce matin. Un procès inédit, car depuis la création de la LRA il y a près de 30 ans, il n'y a jamais eu de procès. Aucun responsable de ce mouvement sanguinaire n'a eu à rendre de compte devant la justice. Pour les quelques 200 000 victimes au moins de ces terribles exactions. Ce procès est donc très attendu, mais la tâche des juges va être particulièrement complexe, car Dominique Ongwen, âgé de 40 ans aujourd'hui, a lui-même été enlevé par la LRA sur le chemin de l'école alors qu'il avait 10 ou 12 ans. Un argument sur lequel la défense compte bien s'appuyer tout au long de ce procès, comme on a pu le voir ce matin.
Léa Lisa Vesterov en direct de La Haye pour RFI. Et puis cette décision de la Cour suprême polonaise, Varsovie rejette la demande d'extradition du cinéaste Roman Polanski vers les États-Unis, demande liée à une affaire de relations sexuelles avec une mineure, affaire qui remonte à 1977. Il est 12h10 à Paris.
Édition spéciale sur RFI. Caroline Paré.
On le savait depuis hier matin, Manuel Valls l'a officialisé hier à 18h30 à Évry, sa terre d'élection en région parisienne.
Je suis candidat à la présidence de la République. J'ai cette force en moi, cette volonté de servir mon pays. C'est au-delà des mots, c'est une conviction totale. Je veux tout donner pour la France qui m'a tant donné.
Candidat et plus Premier ministre depuis ce matin, Manuel Valls est resté un peu plus de 30 minutes à l'Élysée, entretien avec François Hollande, pas de déclaration aussitôt. Le nom de celui qui dirige désormais le gouvernement, et ce jusqu'aux élections, a été rendu public. Bernard Cazeneuve, nouveau Premier ministre, Bernard Cazeneuve à la tête du gouvernement, le député socialiste Bruno Le Roux, nommé lui ministre de l'Intérieur. Nous allons revenir dans les 20 prochaines minutes sur cette candidature de Manuel Valls, cette primaire aussi de la gauche dont les contours, la distribution se dessine, le remaniement ministériel aussi. Hérault, Valls et Bernard Cazeneuve, le troisième Premier ministre du mandat de François Hollande.
RFI.
Une redistribution des cartes au sommet de l'État que l'on évoque sur RFI jusqu'à 12h30 avec nos invités en studio. Avec nous, Gérard Filoche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Bureau national du Parti socialiste, candidat déclaré à la primaire de la gauche. Également avec nous, Valérie Gaz du service politique de RFI. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Le politologue Olivier Roucan nous rejoindra tout à l'heure. C'est donc Bernard Cazeneuve que François Hollande a choisi comme Premier ministre, le ministre de l'Intérieur va diriger ce qui sera très certainement le dernier gouvernement du mandat de François Hollande jusqu'à la présidentielle. Gérard Filoche, les Français connaissent le Bernard Cazeneuve à l'intérieur, celui qu'on a vu, hein, souvent la mine grave après les attentats de ces derniers mois. Comment vous interprétez ce choix de François Hollande ?
Ouais, c'est un choix régalien, c'est-à-dire il s'agit de maintenir l'ordre jusqu'à la fin du quinquennat, on le sent comme ça. Ceci dit, entre nous, il devrait être possible aussi d'augmenter le SMIC. Le SMIC, c'est le 1er janvier, on a un nouveau Premier ministre. Il pourrait peut-être faire ce qui n'a pas été fait pendant 5 ans, c'est-à-dire faire un coup de pouce. Il y a tellement de gens qui ont besoin et qui ne pourront pas passer Noël dans de bonnes conditions, qui ont des fins de mois difficiles. Ce serait un bon choix pour la gauche et dans les conditions actuelles. Ça corrigerait peut-être la mauvaise image en partie du quinquennat si on augmentait les salaires.
Certainement un sujet qui reviendra directement dans la campagne pour la primaire de la gauche. Donc comme promis, Olivier Roucan vient de nous rejoindre. Bonjour,
bonjour.
Olivier Roucan. Vous êtes politologue chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives en politique. Un mot sur la personnalité de ce nouveau chef du gouvernement. On entend beaucoup de commentaires déjà sur son caractère consensuel.
Oui, consensuel et en retrait de la vie médiatique, ce qui est un signal assez intéressant finalement envoyé là par François Hollande au profil considéré comme solide. Bernard Cazeneuve ne parle pas à tort et à travers. Il a une image donc rassurante. Et il est là pour consolider pendant les derniers mois que la maison tienne. De ce point de vue, il y a l'état d'urgence qui doit être prorogé. Il y a la loi égalité et citoyenneté qui doit être votée pour un message envoyé à la gauche, notamment, parce qu'il y a quelques dispositions dans cette loi qui sont de nature sociale. Et puis, d'autres décisions peuvent être prises. Ça ne va pas être l'inactivité totale. Il ne faut pas rayer d'un trait de plume 5 mois de gouvernement, surtout dans le contexte que nous connaissons.
Peu bavard dans les médias, malgré tout, très exposé après les attentats.
Oui, mais Bernard Cazeneuve, il a construit également son image avec une économie de mots qui rappelle la règle que lorsqu'on parle moins que les autres, on est parfois mieux entendu et davantage écouté.
Et moins critiqué.
Également.
Ouais. Valérie Gaz, Bernard Cazeneuve, comment se positionne-t-il justement par rapport à l'équipe sortante ? Eh bien, Bernard Cazeneuve, il est présenté comme un Hollando compatible et un Valso compatible. En fait, c'est un petit peu la raison qui avait amené son choix pour le remplacer Manuel Valls au ministère de l'Intérieur quand il avait été nommé lui-même Premier ministre en 2014. Hein. Il fait un peu l'unanimité, il ne dérange pas. Et puis, il a été un des piliers du quinquennat depuis 2012. Il a occupé plusieurs fonctions de ministre, un ministre délégué aux Affaires européennes. Et puis en 2013, hop, au pied levé, il avait remplacé Jérôme Cahuzac en plein scandale sur la fraude fiscale. Et puis ensuite, il est arrivé au ministère de l'Intérieur et maintenant Premier ministre des cinq derniers mois du quinquennat de François Hollande. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, il bénéficie d'une image